France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Y aura-t-il des arbres dans l'église? C'est bien possible. À Château-Guibert, petite commune vendéenne entre La Roche-sur-Yon et Luçon, l'église va bientôt être rénovée et un artiste de renommée internationale va y installer des œuvres. Fabrice Hibert va refaire les vitraux et réaliser une gigantesque fresque. Si je suppose que les arbres seront au rendez-vous, c'est qu'ils sont partout dans l'œuvre de ce plasticien. Nous passons la semaine en Vendée, vous le savez, et cette église, investie par cet artiste, mérite évidemment notre attention. Un invité exceptionnel dans les carnets du jour. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Bonjour Fabrice Hibert.
Bonjour.
Bienvenue dans les carnets de campagne. Alors, l'église de Château-Guibert va-t-elle devenir une forêt ?
Alors, l'église Notre-Dame de la Nativité de Château-Guibert, c'est une église qui est apparue au 19e siècle, qui est très haute et qui a un son incroyable, un son réverbérant incroyable. Et quand on m'a proposé d'imaginer quelque chose avec cette église, j'ai imaginé tout de suite une forêt dense, mais en même temps lumineuse. Comme l'église, c'est une église très lumineuse, très claire. Et donc, j'ai imaginé dessiner des arborescences, des arbres dans tous les sens, même des arbres qui viennent du ciel, même des arbres qui... Et en fait, quand on rentrera dans l'église, on sortira de la terre pour aller dans l'autel de l'église. Voilà, c'est un peu le principe. Après, les vitraux seront refaits, les vitraux qui sont d'habitude des sujets, là, ils seront le bord des sujets, enfin voilà. Et puis après, il y aura tous les fauteuils, il y aura 200, 250 fauteuils que je vais tous confectionner un par un pour pouvoir s'asseoir et écouter le merveilleux son de l'église de Château-Guibert.
Vous exposez dans le monde entier, Fabrice Hibert, mais vous êtes originaire de Vendée. Quel est votre lien avec cette église en particulier ?
Alors moi, je suis né en Vendée, je suis né à Luçon, mais j'ai grandi dès le troisième jour à Château-Guibert. Et en fait, cette église, j'y allais quand j'étais enfant avec mon voisin et on allait... écouter le curé qui racontait les histoires et qu'on n'entendait pas parce que ça résonnait beaucoup. Et c'était un endroit, en fait, où on se rassemblait. Il y avait toujours c'était un petit village. Maintenant, c'est un village un peu triste où il y a moins de choses, mais il est en train de revivre grâce à ce projet-là. Et ça devient un endroit agréable qui, je l'espère, sera très agréable. On pourra écouter des voix, se rassembler, écouter des chorales du coin, et puis regarder ce merveilleux paysage que j'invente et que je vais inventer et créer avec tous les visiteurs.
Mmh. Voilà. Elle est fermée au public depuis 2018, hein, cette église, pour des raisons de sécurité.
Voilà, c'est ça. Et en fait, le toit s'effondre parce que c'est des grands murs en pierre qui se font 12 mètres de haut et qui, le toit est un peu lourd par rapport à la structure. Donc, il a tendance à un peu s'affaisser. Donc, ça a été fermé en 2018, en janvier 2018. Et donc, l'idée, c'était de le restaurer. Donc, la mairie s'est mise en quatre pour pouvoir la restaurer. On l'aide à la restaurer et on peut encore l'aider à la restaurer. Et puis, c'est un endroit qui va accueillir toute cette œuvre, ces œuvres. Donc, ça va devenir vraiment un endroit vivant, en fait. C'est ça le principe.
Une souscription, en effet, a été lancée par la Fondation du patrimoine. Mais je précise que vous allez donner vos œuvres d'art. Ça ne coûtera rien à la commune. C'est un peu inespéré, hein, pour une petite commune comme Château-Guibert, l'intervention d'un artiste comme vous.
Bah, en fait, moi j'avais vent déjà il y a quelques années que cette église fallait faire quelque chose. Et puis quand le maire, Monsieur Philippe Berger, est venu me voir il y a en 2021, j'ai tout de suite imaginé. En fait, il m'a dit qu'est-ce qu'on peut faire avec cette église, parce qu'il voulait, il se demandait si on pouvait agir avec autant d'argent pour faire seulement pour faire deux messes dans l'année. C'est un peu compliqué. Donc j'ai proposé tout de suite d'offrir une œuvre. Sans frais de production, parce que ça coûte de l'argent quand même de faire toutes ces choses, et c'est les vitraux surtout. Donc toutes ces œuvres vont être offertes, et même je vais après être là tout le temps pour s'il y a des problèmes dans la construction, s'il y a des problèmes dans les œuvres et tout ça, je serai toujours là pour m'occuper du lieu.
Y aura-t-il un homme de Bessines quelque part dans l'église, ce petit bonhomme vert, cette sculpture fontaine qui a lancé votre carrière d'artiste?
Je sais pas encore, mais c'est possible. C'est possible qu'il soit dans un endroit pas loin de, pas loin d'un comment ça s'appelle, le bénitier.
Planqué derrière l'hôtel, sinon.
Peut-être, parce que j'ai pas envie de mettre dans ce paysage des corps. En fait, les arbres sont tellement déjà des corps tout seuls, et donc ça va être très impressionnant, j'en suis sûr. Ça va être, donc il y aura pas forcément, les corps seront peut-être absents du paysage. Les corps vont être les gens qui vont visiter.
Voilà, l'homme de Bessines, c'est une sculpture, un homme vert sculpté, une fontaine que vous avez fait au départ pour Bessines, mais qui est pour la commune de Bessines en France, mais qui s'est multiplié. Il y a des hommes de Bessines partout dans le monde, hein, aujourd'hui,
partout,
c'est ça?
Un peu partout, il y en a quelques centaines. Et je vais fêter le 35e année de l'homme de Bessines cet été à la Villa Cavrois, dans le nord de la France. Je vais voir un bassin recouvert.
Ah, un bassin recouvert, une armée d'hommes de Bessines.
Une armée d'hommes verts, oui, qui pissent de partout.
Oui, parce qu'ils ont des trous partout, il faut le préciser, sur le visage, sur le corps, et l'eau sort de partout. Voilà. Je garde un souvenir très fort de votre récente exposition à la Fondation Cartier pour l'art contemporain à Paris. Et c'est surtout votre travail sur les couleurs qui m'avait marqué, du vert, du rose, du orange à la douceur très pastel. Comment abordez-vous le travail du vitrail pour cette église ?
Alors le vitrail, il est, vous savez, un vitrail, généralement, c'est des plaques de verre colorées qui sont assemblées avec du métal. Généralement, c'est du plomb. Et en fait, j'ai mis au point depuis une douzaine d'années maintenant une technique pour faire en sorte qu'il y ait plus métal. En fait, c'est des grandes plaques de verre. Et j'ai imaginé que de peindre avec du verre sur le verre. Donc c'est des grands, c'est de la poudre de verre très 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 fine qu'on malaxe très très finement, et puis après je peins avec et je fais cuire à une certaine température très précise pour que ça devienne transparent comme si c'était une aquarelle dans l'espace. Ouais. Et ça va donner une sorte de transparence exceptionnelle et des couleurs incroyables, évidemment, aux vitraux de l'église. J'allais l'appeler la cathédrale, mais c'est l'église.
Vous vous êtes débarrassé des frontières.
Oui, absolument. Ah oui, tout à fait. Et puis c'est très transparent en plus. C'est très transparent, ça va être le soleil va. Si j'exagère, quelquefois, on pourra imaginer que je dessine un oiseau dans le ciel, un extraterrestre peut-être, à la limite.
L'éphémère a une place très importante dans votre travail en général, Fabrice Hibert. Est-ce que vous êtes impressionné à l'idée d'installer des œuvres dans une église qui date du 19e siècle ?
Oui, c'est impressionnant parce qu'en fait, c'est tout un engagement avec beaucoup de personnalités qui se mettent, qui sont là, qui sont présentes pour faire le projet. Donc il y a ça. Et puis après, cet endroit aussi, il va évoluer. Et je pense on parle du recyclage maintenant, mais je pense que tous les lieux ont déjà une âme à recycler en permanence. Et les bâtiments de pierre, ils peuvent très bien être recyclés, devenir quelque chose d'autre ou se compléter ou s'enrichir. Et le lieu de l'église, eh ben, je serai là aussi peut-être pour rajouter un arbre de temps en temps.
À l'intérieur.
Donc ça sera jamais fini. Bah oui, peut-être, on verra. Et puis il y aura un hôtel, et il y aura quelques éléments qui serviront aussi pour le culte, parce qu'on va garder aussi le culte à l'intérieur de l'église, ça c'est très important.
Cette semaine, à l'occasion du printemps de la ruralité, on interroge la place de la culture en zone rurale dans les carnets de campagne. Est-ce que vous diriez que vous avez, vous, une responsabilité en tant qu'artiste pour le soutien à cette vie culturelle ?
Oui, absolument. Et j'ai toujours, depuis le début, j'ai toujours... En fait, j'ai appris à regarder le monde en Vendée, en fait, à voir les flux d'eau, l'herbe qui pousse, les fleurs qui apparaissent, les animaux, toutes ces choses-là, l'agriculture, tous les types d'agriculture, toutes ces choses-là, pour moi, c'est un engagement que j'ai depuis tout le temps et j'aimerais bien partager ça avec tous mes voisins. Et je pense qu'on a vraiment un jeu quand on est artiste. Il y a des artistes partout, il y a beaucoup plus d'artistes qu'on pense, et il y a des artistes qui peuvent vraiment s'engager pour faire des propositions de comportement, de paysage, hein, qui peuvent servir à la réalité. La réalité, c'est on en mange, en fait, on mange le paysage qu'on se promène là-dedans. Et donc, juste à côté de l'église, d'ailleurs, j'ai construit une forêt, j'ai semé une forêt il y a 30 ans bientôt, qui est c'est une forêt semée avec beaucoup d'arbres fruitiers et avec l'idée qu'on puisse manger le paysage.
Votre forêt est à Mareuil-sur-Lay, pas très loin, en effet, de Château-Guibert. Quel est votre arbre préféré dans cette forêt ?
Le cormier.
C'est très précis. Il y en a un en particulier ou c'est tous les cormiers ?
C'est un en particulier, mais les cormiers en général, parce que je me souviens très très bien, c'était la vallée où il n'y avait pas d'arbres du tout quand j'étais enfant avec ma mère. On allait toujours la première semaine après l'ouverture de l'école, c'était genre le week-end d'après, et on allait se promener. Il y avait toujours un arbre dans cette grand champ qui s'appelait le champ franc, je me souviens. Et il y avait un seul arbre qui était tout seul. Maintenant, c'est une forêt, il y a des milliers d'arbres dans cet endroit. Et il y avait juste cette forêt, puis il y avait des fruits caractère très petit, qui ont une forme de petite poire comme ça, blette un peu, très très mou. Et quand on les mangeait, c'était juste délicieux. Et ça avait un parfum incroyable, une sorte de poire extrêmement mûre. Je me souviens que le bois était très très dur et rose, très légèrement rose, comme la paume de la main, vous voyez. Et donc ce bois là, cet arbre là, qui est pas vraiment joli mais qui est extrêmement dur, et servait aussi pour les engrenages de moulins à vent. Donc tout cet arbre là pour moi c'est un arbre fétiche. Il y en a plus de 2000 maintenant dans la vallée. Et c'est un de mes arts fétiches. Alors, mais il y en a d'autres. Hein. J'aime tous les arts de toute façon.
Et vous considérez que vous créez une œuvre d'art quand vous plantez un arbre ?
Une œuvre d'art, c'est quelque chose qui crée un comportement, qui crée une nouvelle façon de voir le monde. Donc, quand on passe dans ma forêt, en fait, elle est dans la forêt, dans cette vallée. En fait, la forêt, elle est complexe, elle a beaucoup, beaucoup d'essences différentes, mais elle est rangée en même temps. Donc, c'est une forêt très particulière. Donc, on se pose des questions sur la forêt quand on se promène dans la mienne. Et ça, pour moi, c'est une œuvre d'art, oui, bien sûr.
On interroge le réel.
Absolument. Comme quand je fais une voiture avec deux avants, une voiture normale, on ne se pose pas la question, mais avec deux avants, on se dit « Ah, il y a quelque chose qui se passe
voilà. ». Alors, les travaux de l'église de Château-Guibert vont durer un petit moment, à la création de vos œuvres aussi. Quand peut-on espérer visiter cette église forêt, Fabrice Hibert ? 2026 ?
2026, mais avant, à partir du moment où je vais commencer à dessiner, il y aura sans doute une journée ouverte avec le public par mois. Et les écoles qui vont voir aussi pendant que je vais travailler.
Ah, ce sera un chantier ouvert au public.
Ouais. On va essayer de l'ouvrir, enfin, avec des certaines conditions, tout ça, parce que c'est un chantier. Mais on va essayer d'ouvrir ça. On prévoit ça de façon très sérieuse pour pouvoir partager ça. Puis moi, ça me permettra aussi d'avoir des éléments que les gens vont m'apporter, sans doute, et qui pourront être inscrits peut-être sur les fresques, vous voyez. Et je pense que c'est très enrichissant, ça.
Voilà. Oui, parce que vous écrivez beaucoup de mots, hein, sur vos toiles et vos fresques.
Oui, il y a beaucoup de mots. Il y a des mots dans toutes les langues. Dans toutes les langues. Et en ce moment, d'ailleurs, je suis en train d'écrire en coréen, parce que j'ai deux expos en Corée, donc j'apprends le coréen en l'écrivant. Je trouve ça génial.
Ah oui. Bon, ce sera toujours un lieu de culte, hein, un lieu de culture, mais aussi un lieu de culte. Ça vous dérange pas, ça ?
Ah non, pas du tout, non, pas du tout. C'est le lieu pour lequel il a été construit. Donc il faut, on le garde. De toute façon, c'est un peu dans l'idée là. C'est même positif, quoi. C'est pas une chose, c'est une chose qui en plus, c'est pas une chose en moins du tout.
Et je rappelle que ce sera à Château-Guibert en Vendée. Merci beaucoup, Fabrice Hibert.
Merci beaucoup, bonne soirée.
Bonne journée,
bon après-midi, pardon.
J'ouvre la boîte mail des carnets de campagne pour d'autres initiatives en Vendée. Et j'y trouve un festival pour le moins singulier, il s'appelle Réveillons-nous. L'idée est de partager des émotions devant des concerts à l'aube, en milieu naturel, en pays de Mont, nous explique Claire dans son courriel. Concert à 5h45 du matin, oui oui. Petit déjeuner préparé par des producteurs locaux et visite de sites patrimoniaux en partenariat avec l'ONF, l'Office National des Forêts. Cet été, notre tête d'affiche est Bertrand Belin, précise cette auditrice, et d'autres artistes tout aussi fantastique et sympathique. Les Goguettes en trio mais à quatre, oui, c'est le nom du groupe. Gaume, qui est aussi magicien, ou encore le Concert Idéal, ensemble dirigé par Marianne Piketty, qui propose un concert Vivaldi Piazzolla. Réveillons-nous, c'est donc en Vendée du 7 au 14 juillet 2024, des concerts en plein air et à l'aube. Et puis le message de Claudine a attiré mon attention. Je suis bénévole depuis 3 ans dans une bouquinerie solidaire de la Roche-sur-Yon, écrit cette auditrice. Voilà comment fonctionne Au Bouquin Frappé. Nous récoltons des livres près des particuliers, des bibliothèques d'entreprises, des librairies. À ce jour, plus de 20 000 livres. Nous les trions et gardons ceux qui sont en bon état ou qui semblent présenter un intérêt. Nous les vendons à petit prix dans un lieu que nous avons rénové. Nous avons un partenariat avec une association qui vient chercher les livres abîmés et qui les transforme en ouate de cellulose qui sert à l'isolation. Une trentaine de bénévoles tiennent la bouquinerie ouverte tous les jours de la semaine. Les bénéfices vont à l'association France Handicap pour soutenir des actions vers les personnes en situation de handicap, des sorties, des loisirs ainsi que la défense de leurs droits. Au Bouquin Frappé, c'est donc à La Roche-sur-Yon, en Vendée.
France Inter, carnet de campagne.
Et je dois vous dire un mot des audiences. Les chiffres ont été dévoilés ce matin, vous l'avez entendu sans doute dans le 7-10. Les carnets se portent Très bien. Vous êtes 1 539 000 à écouter tous les jours cette émission. Les carnets de campagne sont très largement en tête des radios nationales à cet horaire. Sophie Hoffmann, qui travaille à mes côtés, se joint à moi pour vous dire un très grand merci. Merci pour votre fidélité qui est à la hauteur de votre exigence. Je rappelle l'itinéraire des carnets de campagne pour les semaines à venir. Nous serons en Alsace la semaine prochaine, Bas-Rhin et Haut-Rhin, et puis en Haute-Saône. J'ai voulu voir Vesoul et on verra Vesoul avant de s'intéresser à l'Aisne du côté de Laon dans les Hauts-de-France. Si vous avez des initiatives ou des gens géniaux à signaler, notamment en Haute-Saône et dans l'Aisne, écrivez-nous, nous lisons tous vos messages.